Bien, bonjour à toutes et bonjour à tous. Jean-Michel Stenner et le Grémos. Nous sommes donc le troisième jeudi du mois, jeudi 19 janvier 2023. Nous allons parler aujourd'hui d'une exposition qui se tient aux archives municipales de Saint-Étienne, qui s'intitule « En guerre d'Algérie ». Et nous sommes en présence de Caroline Costil. Bonjour Caroline.
Bonjour Jean-Michel.
Tandis que Lionel, bien sûr, assure la technique. Bonjour Lionel.
Et bonjour.
Alors, cette exposition, Caroline, a été inaugurée le 14 octobre 2022 et elle est visible sur le site des archives municipales. Hein, c'est le site bâtiment 164 cours Fauriel jusqu'au 16 juin 2023. Alors Caroline, je suis très très heureux de te donner la parole et l'accès au micro. Ça fait longtemps qu'on se connaît, Caroline. Tu es historienne comme moi.
Oui.
Et tu es aussi archiviste. Hein. Tu as travaillé sur l'histoire du lycée Fauriel et sur l'histoire des commerçants.
Tout à fait.
Et depuis quelques années, tu as travaillé pendant un temps en alternance entre le site Courriau et les archives municipales. Désormais, tu es en permanence aux archives municipales. Et tu es chargé notamment de la médiation. Tu accueilles les jeunes classes, les élèves.
Le public scolaire en priorité, mais le public de manière générale.
Voilà. Et alors justement, le public a l'occasion de pouvoir venir voir cette exposition tout à fait intéressante, et en particulier intéressante parce qu'elle est au croisement de plusieurs institutions, puisque outre les archives municipales de Saint-Étienne, les archives départementales de la Loire, le mémorial résistance et déportation de Saint-Étienne, l'université Jean Monnet et la cinémathèque de Saint-Étienne sont parties prenantes de cette exposition. Et tu vas nous détailler tout ça, Caroline, par le menu. Juste quelques mots sur le plan global de l'exposition. Hein. Il y a en gros 4 thèmes qui sont traités. 130 ans d'histoire commune, 8 ans de guerre sans nom. Ensuite, les étapes et le caractère du conflit. Puis l'engagement et les fractures, donc
On a plutôt voulu traiter d'un côté la question de l'identité. Qu'est-ce que ça veut dire qu'être algérien? Aussi bien être algérien en Algérie qu'être algérien à Saint-Étienne.
Pendant le conflit et après le conflit.
Tout à fait. Une thématique sur la guerre à proprement parler, puisque c'est une guerre sans nom. Une troisième thématique qu'on a appelée « engagement et fracture », dans laquelle vont être abordées plutôt les luttes fratricides entre le FLN et le MNA. Et enfin, comme tu le disais, un dernier thème sur l'indépendance et les déracinements. Que ce soit le déracinement des appelés, finalement, puisque quand ils arrivent là-bas sur le sol algérien, c'est une forme de déracinement. Ils sont sur un autre continent, avec un autre climat, une autre langue. Mais aussi le déracinement des harkis et des pieds noirs qui arriveront en métropole après la guerre.
D'accord. Alors, l'originalité de l'exposition... Une autre des originalités, c'est cette disposition en gros en deux parties, puisqu'il y a l'exposition classique dans la cour des archives et une exposition dans le chalet, derrière le bâtiment, où les spectateurs pourront voir et entendre des témoignages, notamment de gens qui sont des Stéphanois ou des Ligériens qui ont connu la guerre. Alors, comment avez-vous travaillé pour préparer cette exposition ?
Alors, quand on prépare une exposition aux archives, la première question qu'on se pose, c'est celle des sources. Chez nous, aux archives municipales et métropolitaines, on a été bien embêtés parce que les sources concernant la guerre d'Algérie, on en avait très peu. De quoi on disposait chez nous ? Eh bien, on avait la presse qui relatait les événements de la guerre d'Algérie au jour le jour et quelques photos de presse dans le fond Le Ponce que tu connais bien. Au-delà de ça, on n'avait pas grand-chose. Heureusement, on a travaillé en partenariat avec les archives départementales de la Loire, qui, elles, possèdent les archives administratives de cette guerre. Mais, à côté de cela, ce qu'il nous manquait, eh bien, c'était les archives privées. Donc, dans un premier temps, ce qu'on a fait, c'est qu'on a lancé, en septembre 2021, un appel à collecte destinée à tous les Ligériens qui pensaient détenir des archives liées à la guerre d'Algérie. Et finalement, c'est à partir de cet appel à collecte qu'on a composé un corpus qui nous a permis d'illustrer l'exposition, puisque les Ligériens, les Stéphanois et les Ligériens de manière générale ont répondu assez largement à notre appel. Ça, c'est pour régler la question des sources, on va dire, classiques. On a voulu aller plus loin en organisant une campagne de témoignages oraux. Cette campagne, elle a démarré aussi en septembre 2021, toujours une année avant l'exposition.
Alors, la différence entre les deux, c'est que la collecte des sources est faite en partenariat entre les archives municipales et les archives départementales.
Tout à fait.
Et la campagne de témoignage avec l'Université Jean Monnet et le Mémorial.
Alors, cette campagne de témoignage, en effet, elle a été réalisée par 4 étudiants en sociologie du Master Full, donc forme et outils de l'enquête de l'Université Jean Monnet de Saint-Étienne. Ces 4 étudiants étaient stagiaires au Mémorial pendant l'enquête et ils étaient encadrés par 2 de leurs professeurs, Michel Rothenberg et Adrien Milliot. Ce sont donc ces étudiants qui sont allés chez les témoins, qui ont bâti des grilles d'enquête, qui ont interrogé les témoins et dans le même temps, ces témoins ont été filmés par Adrien Milliot et c'est lui qui ensuite s'est chargé du montage, des montages, puisqu'il y a 4 montages différents dans l'exposition, à partir à la fois des enquêtes orales qui ont été conduites pour l'exposition, mais aussi à partir des fonds dont on disposait. Alors, ils n'étaient pas très, très nombreux. Il se trouve que chez nous, on avait un témoignage oral. On a aussi utilisé les ressources de la Cinémathèque, et je pense notamment au témoignage de Rachid Benzema qu'avait enregistré Antoine Rava il y a quelques années. Il y avait aussi le film, on a utilisé le film de Dominique Paré qui date de 2012, qui s'appelle « Sommes-nous revenus d'Algérie ?» où un certain nombre d'appelés du soleil témoignent. Voilà, donc on avait toutes ces sources orales. Et c'est à partir de ces sources-là que Adrien Milliot a fait les montages qu'on lui a demandés.
Donc les témoignages, en gros, l'organisation est encadrée par l'UGM, par Michel Rothenberg et par le vidéaste dont tu viens de parler.
Tout à fait.
Globalement, vous avez aussi un accompagnement scientifique.
Alors, accompagnement scientifique, on n'a pas eu de conseil scientifique à proprement parler. En revanche, on a été accompagné par Sylvie Thénault, qui est directrice de recherche au CNRS.
Quand même.
Quand même, oui, en effet. Qui a participé à nos réunions de travail et surtout qui a fait une relecture particulièrement attentive des textes de l'exposition et qu'elle soit ici remerciée.
D'accord. Alors, ceci étant dit, on va passer un petit peu de temps sur l'exposition en elle-même, en partant des 4 thèmes que j'ai évoqués tout à l'heure. Alors, la première partie, 130 ans d'histoire commune, 8 ans de guerre sans nom. Il y a un déroulé de l'histoire depuis 1830 jusqu'en 1954, 1962. La guerre étant incluse, c'est ça ?
C'est ça, tout en sachant que le propos de l'exposition, c'est pas de refaire l'histoire de la conquête de l'Algérie, ni même de sa colonisation, mais dans la mesure où on souhaitait accueillir des scolaires, il nous semblait important de revenir sur ces faits-là de manière à mettre en perspective cette guerre dont on dit qu'elle commence en 1954. Ce qui me semble peut-être discutable.
On pourrait tout à fait dire qu'elle commence en 1830.
Je crois
que c'est très très important, au contraire, de montrer que, parce que ça explique beaucoup des spécificités de la guerre, la violence qu'elle a connue, les conflits entre les communautés, que la conquête d'abord a été difficile. Il me semble.
La conquête a été difficile.
Parce que moi, j'étais à l'école primaire en 1956, la guerre commençait. Et on apprenait que le général Bugeaud était arrivé et que, sitôt qu'il était sur la plage, les musulmans et les arabes s'étaient prosterner devant lui et que c'était terminé.
Alors, je pense que c'est pas si simple. En effet, Bugeaud arrive, devient gouverneur en 1840 avec cette idée du soldat laboureur, c'est-à-dire oui. que le soldat va arriver et puis va s'occuper des terres. Abdelkader ne capitule qu'en 1847.
Oui. Et puis, il y a des reprises, des conflits régulièrement.
Tout à fait. C'est pas aussi... la conquête ne démarre pas en 1830 stricto sensu. Oui. Jusqu'en 1870, on va avoir un régime militaire qui se met en place. Oui. Puis ensuite, à partir des années 1880, une administration civile. Et toute cette conquête, cette colonisation, elle se fait au détriment des terres. Il y a une grande campagne de dépossession des terres, et notamment une perte de l'usage des forêts pour les musulmans, puisque c'est comme ça qu'on les dénomme à l'époque.
Alors, on a un exemple, puisque tu as parlé de soldats paysans. Je crois qu'on a des témoignages. Hein, dans le chalet, on a le témoignage de descendants de...
Alors, tout à fait. On a le témoignage de descendants qui s'appellent Alain Flour et Alain et Marie-Jeanne Flour, qui sont frères et sœurs tous les deux, qui ont bien voulu témoigner et qui expliquent dans quelles conditions leurs familles sont parties d'Europe pour aller vers l'Algérie.
Au départ, ils sont partis d'abord, c'est qu'ils étaient très pauvres ici, parce qu'ils étaient journaliers, ils se louaient à la journée chez des paysans, pour certains, hein, peut-être pas tous. Donc là, voilà pourquoi ils ont saisi l'occasion, quand on leur a fait miroiter, qu'ils auraient peut-être des emplois de l'autre côté de la mer. Mais je ne pense pas qu'on leur en a donné, des emplois.
Eh bien, ils se sont fait leur place
tout seuls. Oui, ils se sont fait leur place tout seuls. Oui, voilà, ce n'était pas un cadeau. Quand ils arrivaient, ils n'avaient pas l'emploi automatiquement, je veux dire.
Ah, ils se sont fait leur place tout seuls, ça veut dire quoi ?
Eh bien, ça veut dire qu'on est un peu loin des grands colons et qui arrivent et qui s'installe. Hein. D'ailleurs, il faut quand même rappeler sur les 100 000 colons qui sont arrivés en Algérie, seulement 16 000 étaient agriculteurs.
Mmh. On rappelle qu'il y a plusieurs vagues, 1848, 1851, 1871. Ce sont chaque fois des exclus de la société française, notamment des militants ouvriers ou alors les Alsaciens lorrains. Mmh. Et que ce sont souvent des gens effectivement qui arrivent sans rien. Et qui vont rester pour beaucoup. Hein, les pieds noirs, on les voit souvent, comme tu disais tout à l'heure, comme des grands colons, mais c'est une infime minorité. Les pieds noirs sont souvent assez pauvres, un peu plus riches que les musulmans, mais ils sont quand même assez pauvres. Alors là, le système colonial, derrière tout ce que vient de nous dire ce témoignage, c'est donc aussi cette terre, on la prend des gens. Hein. On dit pas qu'il y avait des propriétés, des propriétaires.
Il y a une spoliation, un séquestre des terres.
Voilà. Il y a, comme tu dis, une mise en place d'une administration française avec ce qu'on appelle la départementalisation.
Oui.
Et puis, il y a le code colonial, le code de l'indigénat, comme on l'appelle. Je crois que Sylvie Thénault n'est pas d'accord avec cette expression.
Il y a surtout une citoyenneté à deux vitesses, ouais. Avec des citoyens de plein droit, qui sont les citoyens européens, et puis une citoyenneté pour les musulmans qui est une citoyenneté au rabais. Hein.
Et très réduite, numériquement.
Si on parle des élections, il y a deux collèges électoraux, un collège pour les Européens et un autre pour les indigènes. Pour le droit de vote des femmes, les femmes françaises obtiennent le droit de vote après la Deuxième Guerre mondiale. Il faut attendre 1958 pour que les femmes algériennes obtiennent le droit de vote.
Et donc, en fait, c'est la République qui, au détriment de tous ses principes, met en place un système totalement inégalitaire.
Tout à fait.
C'est pas étonnant que le 8 mai 45, on débouche sur des affrontements extrêmement violents dans le Constantinois, en particulier à Sétif et à Guelma.
Alors en effet, le 8 mai 45, c'est l'armistice. Les Algériens prennent conscience que la libération approche et des manifestations des indépendantistes algériens se déclenchent et ces manifestations sont violemment réprimées. C'est quelquefois une date qu'on prend aussi comme repère pour le début de la guerre d'Algérie, même si il me semble qu'on peut remonter encore plus loin.
Donc ce qui va nous amener, Caroline, aux organisations politiques algériennes, puisqu'effectivement il y a déjà un mouvement indépendantiste qui remonte aux années 20 avec ce qu'on appelait l'étoile nord-africaine,
la figure de
Messali Hadj. Et après la guerre, après différentes dissolutions, on aboutit au mouvement pour le triomphe des libertés démocratiques qui devient le mouvement national algérien, dont on a des représentants dans la région stéphanoise et on a aussi le témoignage à ce propos de Rachid Benzema.
Alors c'est tout d'abord mon père qui est arrivé dans les années 50. Il est arrivé en tant que militant du mouvement national algérien. Enfin, c'est pas la raison officielle. Hein. Ils sont venus en tant que travailleurs immigrés, mais leur mission était une mission de militant. Pour, d'une part, récolter de l'argent pour financer la révolution, et d'autre part, de faire prendre conscience de la nécessité de l'indépendance de l'Algérie. Parce que cette idée n'est pas
acquise. Alors, en effet, là, on vient d'entendre le témoignage de Nadine Gonban, pardon, qui, comme tu le disais, est un descendant, en fait, de partisans du MNA. Mmh. Hein, qui sont... Le MNA, c'est le premier mouvement indépendantiste à s'installer dans la région stéphanoise. Avant le FLN, c'est lui qui est présent en région stéphanoise, que ce soit aussi dans la vallée du Gier, la vallée de l'Andenne. C'est lui qui est là et c'est eux qui noyautent un peu les usines parce que c'est de cette manière-là quand même que se diffusent ces idées indépendantistes. Les Algériens qui arrivent dans la région stéphanoise, ils sont ouvriers, ils sont mineurs, ils travaillent dans les usines et c'est souvent par le biais des syndicats que leur arrive qu'ils prennent une conscience politique et c'est de cette manière-là que se diffusent les idées indépendantistes. Donc en effet, Nadim Gonban raconte l'histoire de son père dans l'expo. D'un autre côté, on a aussi des témoignages sur la fondation du FLN et notamment sur la fondation du FLN à Saint-Étienne, l'implantation du FLN à Saint-Étienne. Et là, c'est Rachid Benzema qui nous en parle.
Le rôle du FLN, premièrement, il fallait structurer toute l'immigration algérienne et leur faire épouser la cause, c'est-à-dire la libération du pays. Et il fallait les organiser comme ça, comme je vous dis, en groupe, section, CRESMA, secteur, pour les cotisations. Je vous dis, en France, tout le monde paye ses cotisations. Même les enfants, même s'ils viennent juste de naître, ils payent ses cotisations parce qu'ils touchent les allocations familiales. Je vous dis... C'est la Fédération de France qui a financé complètement la guerre d'Algérie.
Alors, en effet, Benzema explique comment la Fédération de France du FLN se met en place, mais cette fédération, elle n'est pas toute seule. Il faut bien comprendre que les Algériens à Saint-Étienne, ils ne sont pas isolés, ils font partie de la population stéphanoise et ils sont... aidés, soutenus par les familles stéphanoises. Certains vont accueillir des réunions clandestines du FLN dans leur cave, et puis d'autres vont faire parfois un peu plus. Il y a un gros courant autour du journal Témoignages Chrétiens du réseau catholique de gauche qui se met en place et qui aide la fédération du FLN. C'est ce que nous dit Rachid Benzema.
J'habitais pas loin d'une congrégation religieuse qui m'avait demandé de prendre en charge un jeune maghrébin qui était installé avec sa famille, ses deux enfants, de le prendre en charge. Il souhaitait, c'est lui qui souhaitait, avoir des cours d'histoire et de géographie de la France. Et donc j'ai accepté et j'ai fait sa connaissance, on a sympathisé.
Ce qui fait qu'ils ont fini, toute la population a fini par épouser notre cause, et il nous a aidés. D'ailleurs, si vous avez bien lu mon livre, vous trouverez que j'en ai parlé des Français qui nous ont aidés, qui nous ont fourni des armes de poing. J'ai même cité le nom de la personne à qui ils remettaient ces armes-là. Et il y avait aussi ceux qui sont de tendance gauchiste, des communistes, des socialistes, et aussi du côté religieux, des chrétiens, des pères, des sœurs qui nous ont aidés. Et des médecins qui sont chrétiens aussi, qui soignaient nos blessés ou nos malades gratuitement, y compris moi-même et ma famille.
Alors on vient sur l'émission de Radio Dio, vous êtes bien sur l'émission de Radio Dio, du troisième jeudi de chaque mois. Nous sommes en train d'évoquer l'exposition des archives municipales autour de la guerre d'Algérie, et nous venons d'entendre un témoignage sur les aides qui sont apportées aux militants algériens. Alors je voudrais juste peut-être rectifier, il dit communiste, socialiste, je pense que les socialistes non. Il faut oublier, c'est plutôt les socialistes, ce qu'on appelle l'union de la gauche socialiste, qui va donner ensuite le PSU, parce que les socialistes, c'est Guy Mollet, et ils sont plutôt au pouvoir et partisans de la répression. Mais bon, je tourne la page. Alors, Caroline, donc, ces organisations politiques, elles sont là, elles sont présentes, mais la guerre, elle a commencé quand même en Algérie. Enfin, la guerre, ce qu'on va appeler les événements d'Algérie, puisque le terme de guerre officiellement, ne sera employé qu'à
partir. Alors, en effet, on parle d'événements, on parle d'opérations de maintien de l'ordre, on parle d'opérations de pacification.
Opérations spéciales, pendant qu'on y est.
Beaucoup de périphrases pour nous dire, finalement, que c'est la guerre.
Voilà. Et donc, la Toussaint rouge, ça, c'est le 1er novembre 1954. Et dans un premier temps, c'est l'armée de métiers qui affrontent les événements. Et à partir de 1955, quand la rébellion se généralise et qu'il y a surtout des affrontements entre Européens et Algériens, eh bien, on va assister à la mobilisation des appelés. Et je crois que vous avez aussi des témoignages.
Et là, on a effectivement appelés. Deux témoignages qu'on va entendre là. Il y en a plus dans l'expo qui nous expliquent comment les appeler, enfin, quel est l'état d'esprit en fait des appelés au moment où ils vont partir. Et surtout, là pour le témoignage qu'on va entendre, c'est vraiment comment les Algériens étaient perçus à Saint-Étienne. C'est-à-dire qu'en fait, ils étaient là.
Mmh. Saint-Étienne est une ville industrielle et une ville notamment minière. Et donc, parmi les générations d'immigrés qui sont arrivés, notamment les derniers, c'était les Algériens. Or, le quartier où j'habitais, le quartier du Soleil, il y avait une communauté algérienne qui était logée, d'ailleurs, formelle, dans le coin, là, et qui, dont on savait qu'elle était là, et qui se manifestait par certains événements, le ramadan. Et donc, mais justement, moi, ce qui est peut-être important à noter, c'est que j'ai jamais entendu le moindre mot de racisme, la moindre réaction xénophobe dans la famille. Chez les gens chez qui on était, c'était pas des riches, c'était vraiment des gens qui travaillaient, qui étaient des ouvriers. Et donc, bon, on plaisantait un peu sur cette communauté, surtout quand ils faisaient ces fêtes et qu'on les entendait. Mais ça n'allait pas au-delà de ça, quoi. Donc, je peux dire que j'ai jamais entendu un mot raciste dans l'environnement familial.
Ils étaient nés avec nous. Moi, je me rappelle, dans le quartier du Soleil, j'avais beaucoup de copains comme ça. Ils étaient soit des parents espagnols mariés avec des Algériens, ou vice-versa, vous voyez. Et donc, les enfants avaient été nés comme nous, avec nous, à l'école, et on ne faisait pas de différence,
La présence donc de cette immigration, Alain Renaud, qu'on vient d'entendre avant Lucien Saura, et effectivement, elle est assez récente, mais elle remonte quand même une première vague d'immigration pendant la Première Guerre mondiale. Et il y a une montée très importante, alors qu'on avait renvoyé beaucoup de ces immigrés à la veille de la guerre ou pendant la guerre, et une montée très importante dès 1946-1947 parce qu'on manque de main-d'œuvre, en particulier dans les mines.
C'est ça. Ouais. C'est ça.
Et la question du logement est évoquée de façon...
question du logement, elle est évoquée dans l'exposition avec des clichés qui viennent des archives départementales où on voit clairement des taudis dans lesquels sont logés les travailleurs algériens. Bon, Leila Ben-Sharif évoquait la dernière fois le foyer du Bois Monzil qui a existé à partir de 1952. Et ensuite, il faut attendre 1957 et la création de la Sonacotral pour que les conditions de logement changent un peu. Auparavant, c'est des conditions déplorables. C'est des conditions de logement pour les Algériens qui sont déplorables. Mais pour avoir travaillé sur le quartier de Tarentaise, tous les ouvriers étaient logés de la même façon. Enfin, ils ne sont pas traités d'une manière différente.
Mmh. Oui, ce sont des garnis, il y a une densité très importante. Le Ponce nous a montré des photographies qui sont publiées dans le Patriote au début des années 50. Et puis, il y a les bidonvilles.
Il y a les bidonvilles du Champ de Mars, tout à fait. Fin...
Bon, alors, les appelés témoignent dans cette exposition. Parce que c'est un aspect assez intéressant, parce que comment la guerre va diffuser dans toute la France, c'est par le fait que il y a des cercueils qui rentrent.
Oui.
Et il y a de plus en plus de jeunes qui partent. Donc, oui. On a des témoignages là-dessus.
Alors, par exemple, on a reçu en don, dans le cadre de la collecte, toute une correspondance de jeunes du quartier du Soleil, de jeunes appelés. C'est-à-dire des conscrits qui partent les uns après les autres et qui s'écrivent, qui se racontent ce qu'ils font. Ce qui est intéressant de voir dans cette correspondance, c'est que ce que les gens racontent à leurs copains de quartier, c'est absolument pas ce qu'ils racontent à leur famille.
Oui.
Hein, pour avoir lu des lettres qui étaient destinées à la famille comme aux amis, on raconte pas la même chose. Aux copains, on dit un peu plus la vérité, de manière à ce que ceux qui vont partir... sache un peu à quoi s'attendre.
Mmh. Voilà. Et donc, on peut entendre certains de ces témoignages dans la cabane, et on va en entendre ici tout de suite.
J'ai vu un soir arriver quatre Algériens attachés, les mains attachées. Et donc, il y avait des soldats qui les amenaient là vers nous. Et donc, ils les ont fait rentrer dans le seul bâtiment en dur qu'il y avait, un petit bâtiment en dur. Et ils les ont fait rentrer là. Et le lendemain, l'adjudant nous dit « Bon, il m'en faut 6, là. Alors, je fais partie des 6. Bon, vous allez m'accompagner. » Et là, je vais vers le bâtiment en dur où j'entendais les cris. Et là, les 4 mecs étaient étendus, morts. Avec des têtes comme ça, des yeux comme des yeux de boxeur. Ils avaient morflé partout, quoi. Ils avaient des balafres partout, au bras, au corps, la tête comme ça. Donc ils étaient tous les 4 morts. Et donc, vous allez me charger ces mecs-là. Et on les a emmenés dans les aftracs. On avait 2 aftracs. On les a emmenés, on les a enterrés à quelques kilomètres du camp, dans des trous d'obus, et l'adjudant avait avec lui de la chaux vive. Donc il achetait de la chaux vive sur les corps, remblayé un peu, et on est rentré. J'ai honte. Je me dis, c'est pas possible que des Français soient capables de faire ça. Quand j'enterre les mecs, j'ai les boules. J'ai honte pour les autres, pour ceux qui l'ont fait.
Alors, le témoignage de Georges Goubier qui nous montre un des aspects sans doute le plus dramatique de ce que les appelés ont connu, c'est-à-dire indirectement, mais quand même, il en connaît les résultats, les effets de la torture pratiquée par l'armée française.
C'est ça. Alors là, on a la chance, entre guillemets, d'avoir ce témoignage de Georges Goubier. C'est des témoignages qui sont assez difficiles à obtenir. Il m'est arrivé, pendant le travail sur l'exposition, d'interroger un appelé qui nous a donné des photos. Alors j'ai commencé l'entretien de manière tout à fait, on va pas dire légère, mais
informelle.
On a discuté. Il m'a bien expliqué les conditions dans lesquelles, comment ils étaient logés, les opérations. Pour ça, j'ai pas eu de problème. Il m'a très bien décrit les armes. Bon, et à un moment, je lui pose la question de la torture. Et là, il m'a fait signe directement. Il m'a demandé d'arrêter l'enregistrement. Il m'a dit, j'en parle pas.
D'accord.
Voilà.
Oui, donc ça reste quand même.
Ça reste
quelque
tabou.
Chose de très lourd.
Oui.
Cette torture, elle est pratiquée donc par les officiers, par des organisations particulières de l'armée. Mais il y a aussi à l'intérieur de l'armée ce qu'on appelle les SAS. Est-ce que tu peux nous en dire ?
Alors, les SAS sont les sections administratives spécialisées qui sont créées en 1955 dans le but de civiliser, entre guillemets, les populations autochtones. Donc, qu'est-ce que ça veut dire civiliser les populations autochtones ? Ça veut dire scolariser les enfants, leur donner une assistance médicale. Il y a le recensement qui est mis en place dans le cadre de ces sections administratives spécialisées. Ces sections interviennent en milieu rural, puisqu'en milieu urbain, on a l'équivalent qu'on appelle les SAU. On a un appelé originaire de Luriec qui nous a confié ses mémoires, qui lui raconte son expérience dans le cadre de ces sections spécialisées. Il était dans la région de Boussada. Mmh. Voilà, c'est M. Bourgin qui nous a confié ce témoignage-là.
Je crois que c'est intéressant parce qu'on voit qu'il y a deux aspects. Il y a l'aspect répression et puis il y a l'aspect essayer de donner à la présence française ce dont on a toujours voulu en faire, c'est-à-dire une œuvre civilisatrice. Donc on parle de l'éducation, on parle de la santé. 130 ans de présence française, il y a à peine 10% des Algériens qui vont à l'école.
Donc, oui,
il y a du retard à rattraper.
130 ans de présence française, ces sections administratives spécialisées, elles sont créées en 1955. Il était temps d'y penser.
Il était temps d'y penser, et donc ça montre que le discours sur la colonie, c'est quand même un discours assez, qui relève tout à fait de la propagande. On a d'autres témoignages sur. Des appelés qui portent sur d'autres aspects.
Alors, en effet, cette guerre, c'est une guerre des appelés, comme nous le disent Georges Goubier et Roland Basset.
Alors, en 1954, j'ai 18 ans. J'ai 18 ans et là, je suis engagé déjà très fortement dans la jeunesse ouvrière chrétienne, la JOC. Donc je réfléchis, oui, je lis le journal, oui, on en parlait.
On avait encore la radio, même s'il n'y avait pas de télévision à l'époque. Donc on suivait ces événements, soit par la presse, soit par la radio.
Alors c'est une guerre des appelés, en effet, mais c'est aussi une guerre qui va toucher les familles très profondément. Et là, on va entendre le témoignage d'une femme, ce qui est assez rare. On en a très peu dans l'exposition, peut-être parce qu'elles ont peu parlé, mais aussi pour les femmes françaises, on va dire, elles ont peu parlé, souvent parce qu'elles ont attendu que leur mari meure pour s'autoriser à parler. Et puis, pour le côté algérien, peut-être aussi parce que la mémoire se transmet, mais par les hommes. Hein. C'est ce qu'on voit très bien dans le film « La Chine est encore loin » que la Cinémathèque a diffusé récemment. Et là, on a le témoignage d'une femme qui s'appelle Rosette Pabiou et qui explique elle était enfant et elle donne son témoignage de la guerre d'Algérie.
J'avais un cousin, Germain, et nous habitions un étage l'un au-dessus de l'autre. Et tous les jours, on jouait, tous les jours on vivait ensemble. Il avait 4 ans de plus que moi seulement. Et il a été porté disparu en Algérie. Quelque chose s'était passé pas très loin de la caserne et on demandait des volontaires pour aller voir ce qui se passait. Et mon cousin, il s'était présenté. Il a dit, j'y vais avec d'autres. Ils ont été pris en embuscade. Quand les tirs ont cessé, il y en avait deux qui avaient disparu. Et je me souviendrai toute ma vie quand ma tante, qui habitait juste au-dessous, donc, a reçu le télégramme. j'entends encore ces hurlements avec ce télégramme « porté disparu ». Ça voulait rien dire du tout, mais ça voulait trop dire de choses, quoi. C'était affreux. C'était, moi, je disais, mais c'est pas possible, c'est un mauvais rêve. Et puis, après l'attente. Et mon cousin a écrit, peut-être un mois et demi après, il a écrit. Comme quoi, il disait qu'il était pas maltraité. C'était son écriture, mais je reconnaissais pas ses paroles. Et je pense qu'on lui dictait ce qu'il devait écrire. Et puis après, on n'a plus rien eu, et on n'a jamais plus rien su. Et ma tante a beaucoup, beaucoup souffert, parce qu'on lui disait, elle faisait toutes les cartomanciennes du pays, on lui disait tout le temps qu'il était vivant. Et ça a entretenu des fausses idées, des fausses joies, et donc il n'est jamais revenu.
Voilà, donc la guerre dans les familles, cette guerre, elle est aussi présente dans la presse. On la voit apparaître par le biais d'une rubrique qui s'appelle « Nos soldats en Algérie ». Donc on va voir chaque semaine la photo de quelques conscrits qui sont originaires de tel ou tel village de la Loire et qui sont partis en Algérie. On sait très peu... une fois que les soldats sont partis, que les appelés sont partis, les familles n'ont plus que les lettres comme lien avec eux. Les communications sont complètement différentes de ce qu'on connaît aujourd'hui.
Une question quand même, est-ce que il y a la même censure? Est-ce que les lettres sont ouvertes comme c'était pendant la guerre de 14? Est-ce que les familles reçoivent les lettres
Moi, j'ai été surprise de recevoir dans le cadre de la collecte que des lettres intactes. Je me suis interrogée, j'ai posé la question à quelques appelés et on nous a dit ben non, nos courriers n'étaient pas ouverts parce qu'en fait, c'était pas une guerre. Ça n'avait pas à l'époque le caractère de guerre, donc il n'y avait pas de censure. Mais il y avait une forme d'auto-censure, j'ai envie de te dire, dans la mesure où les appelés eux-mêmes disaient des choses à leur famille qui étaient entendables. Mais c'est des choses très anodines, la température qu'il fait, ils vont bien, ils ont besoin de semelles, envoyez-nous un colis avec du pâté, un saucisson. C'est ce genre d'informations, c'est des choses très très banales. Pour ce qu'ils vivent vraiment, il faut attendre le retour des appelés et la libération de la parole pour savoir ce qui va se passer, notamment comme nous le raconte Georges Goubier.
C'était pas de la pacification.
On est autorisé à s'arrêter pour casser une croûte. Et on commence de manger, de boire un coup, tranquillement, de faire des photos aussi. On a nos fusils, on n'a pas nos casques. Il y a un parmi nous qui regarde un peu en haut. Et puis il voit bouger derrière les rochers. Et alors le lieutenant se met à regarder avec les jumelles, c'est des hommes. Il n'y a pas d'autres bataillons ou d'autres sections qui sont dans le coin. Impossible. Donc c'est des félagas. Le lieutenant, il passe tout de suite un coup de radio au capitaine qui était resté au PC. Vous ne bougez pas, on envoie des troupes de l'autre côté. Et à un moment, les félagas s'aperçoivent qu'il y a des troupes qui arrivent de l'autre côté. Ils se retournent de notre côté et s'aperçoivent qu'on est là aussi. On était deux maréchals des logis. Je me trouve devant avec des gars. Ils commencent à nous tirer dessus. On commence à leur tirer dessus. Et puis voilà. Alors à partir de ce moment-là, on a ordre de commencer de crapahuter, de monter. Il y a comme des grottes tout en haut où se réfugient les félagas. Les autres ont monté aussi. Ceux qui encerclaient ont monté de l'autre côté. Ils sont encerclés. Et je sais bien que c'est foutu pour eux. Alors j'ai qu'une seule peur, c'est que l'un de nous prennent une balle dans la tête et ça se termine par trois ou quatre grenades qui sont jetées dans les grottes, là où ils sont. Et là, il n'y a plus personne qui bouge, plus personne nous tire dessus. Et les gars partent en courant récupérer les armes des félagas. Et c'est là que j'ai, par hasard, récupéré une médaille. Donc j'ai la valeur militaire, que j'ai jamais cherchée, évidemment, mais je l'ai eue.
Eh bien, vous êtes sur Radio Dio, l'émission mensuelle du Grémos. Nous sommes en train d'évoquer la guerre d'Algérie à travers l'exposition des archives municipales. Et vous venez d'entendre le témoignage de Georges Goubier qui nous évoquait une embuscade et une attaque entre une bagarre armée sanglante entre ce qu'on appelait les félagas et l'armée française. L'exposition montre aussi, bien sûr, les luttes internes entre les communautés ou les partisans d'un côté, d'un camp ou de l'autre, dans la communauté algérienne plus exactement, et notamment la question des harkis. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots ?
La question des harkis, les harkis qui sont souvent malheureusement considérés comme des traîtres, c'est pas, la question n'est pas si simple que ça en fait. C'est des gens qui souvent ne savent pas lire. Enfin, je voudrais pas généraliser, mais enfin... Pour le témoignage qu'on a eu, je pense à un témoignage de descendant de harkis, qui explique que son père ne savait ni lire ni écrire, qu'il a vu dans le fait de servir l'armée française le moyen de nourrir sa famille, et ça n'allait pas plus loin.
Oui. Voilà. Et donc ces luttes, on les retrouve y compris sur le territoire français.
Alors, les luttes.
Surtout après la guerre, mais.
Ces luttes fratricides, oui. Elles existent entre le MNA et le FLN, même pendant la guerre, oui. Sur le territoire français et à Saint-Étienne, notamment. Hein, il y a des violences importantes. Il me semble qu'on recense une soixantaine d'attentats en 1957, ce qui est quand même assez important. Alors, des attentats, il y en a dans le quartier de Tarentaise, il y en a rue des Martyrs de Vingré. Hein, on a des photos dans l'exposition qui montrent. La reconstitution par l'identité judiciaire d'un attentat rue des Réhabilités de Vingré à l'époque. Et on a un témoignage d'Alaoua Baka qui nous parle d'un meurtre, en fait, dans le quartier de Tarentaise.
J'habitais au premier étage 17 rue Persema. Au rez-de-chaussée, il y avait un bar, M. Kadri, un militant du MNA, mouvement nationaliste algérien. Et il y a eu un jour une descente, parce qu'il y a eu aussi ces conflits entre le FLN et le MNA. On peut dire que le MNA représentait quand même l'essentiel des forces en 1954. Le FLN, c'était un groupuscule, c'était des militants, mais ils étaient peu nombreux. Hein. Les gens étaient plutôt engagés au MNA, parce qu'historiquement, le MNA existait depuis 30 ans. Et donc il y a eu des luttes fratricides pendant la Deuxième Guerre mondiale pour prendre le dessus. Et c'est le MNA qui a disparu en 58-59. Hein. Le FLN, petit à petit, ben, voilà, il a pris de l'importance, l'influence et tout. Donc le MNA, c'était plutôt la lutte armée. Donc il y a eu ces luttes fratricides. Et dans ce bar, eh ben, il y a eu un jour un massacre. Des militants du FLN... sont venus et ont tiré dans le tas. Ils ont tué le fils à M. Kadri, ce fils qui était le père d'un de mes copains avec qui j'étais à l'école ici. Comme ça, de militants, il y a eu des luttes fratricides très dures, hein, il y a eu des centaines de morts.
Alors, l'engagement des Algériens, la lutte fratricide entre les Algériens existe. On vient d'entendre le témoignage d'Alaoua Baka et il y a aussi, évidemment, intérieur de la, parmi les Français, parmi les Français de souche, comme on dirait, des partisans de l'Algérie française et des partisans, en tout cas de la paix, puis qui vont de plus en plus devenir des partisans de l'indépendance de l'Algérie. Comment ça se dessine dans la région stéphanoise et en particulier dans la Loire ? Deuxième question, quels sont le rôle que peuvent jouer les partis politiques dans cette affaire ?
Alors, pour ce qui est ce qu'on présente en tout cas dans l'exposition, pour les partisans de l'Algérie française, ce sont des tracts qu'on a retrouvés. Alors des tracts, on en a plusieurs. On en a certains qui ont été collectés directement à Alger par des appelés. Je pense notamment à Bernard Robin qui était appelé vraiment à la fin de la guerre et qui a ramassé toute une série de tracts qu'il a conservés. Et il y a aussi des partisans de l'OAS à Saint-Étienne puisque des tracts ont été retrouvés rue Edmond Charpentier à Saint-Étienne.
Donc, mais les militants de gauche en particulier, Parti communiste d'un côté, j'ai évoqué tout à l'heure l'UGS qui vient de PSU en 1960, militent beaucoup pour, tu l'as évoqué tout à l'heure, pour aider les Algériens, mais aussi pour convaincre l'opinion publique française de l'inéluctabilité de l'indépendance et que la vanité de cette guerre.
Alors, il y a des comités de, de quartier, qui, dans les quartiers, qui se, je pense aussi au carrefour des associations, qui se met en place, qui va regrouper des associations syndicales, sociales, familiales.
Plusieurs dizaines d'associations.
Voilà, oui. Qui militent pour l'indépendance de, la, de l'Algérie. En effet, là pour le coup, on a aussi, par le biais de la collecte, récupéré un certain nombre de tracts qui nous permettent de retracer un petit peu eh bien, le, l'histoire de ce mouvement-là.
La lutte pour l'indépendance et contre la guerre prend peut-être pour la gauche plus facilement sens à partir du moment où l'OAS existe, parce que l'OAS, ça... comment dirais-je, ça réactive des réflexes historiques, parce que l'OAS s'est assimilé au fascisme. Effectivement, avant, dans un premier temps, les militants ont du mal à comprendre ce qui se passe en Algérie et à l'intégrer véritablement comme une lutte qu'il faudrait défendre. Alors cette guerre, elle a un bilan, on va terminer par là, elle a un bilan immédiat et puis elle a des conséquences que l'on ressent encore aujourd'hui. Est-ce que tu pourrais nous en parler et puis on va peut-être entendre quelques témoignages à cette occasion.
Alors, elle a en effet un bilan qui, tu l'as dit, hein, 238 appelés sont morts, 238 appelés ligériens sont morts en Algérie, mais elle a aussi un bilan lourd. Humainement, on va dire, pour les gens qui sont soumis à l'exil, qu'ils soient harkis ou pieds noirs. Ça, c'est ce que nous explique, par exemple, Aïssa Mekki.
Ça a été une population qui a été abandonnée par la France. Non seulement en 62, lorsque beaucoup ont voulu quitter l'Algérie parce qu'ils étaient menacés, ont été laissés sur place... ont été laissés sur place et ont été massacrés. Heureusement qu'il y a eu des soldats courageux et qui ont désobéi et qui ont récupéré. Mes parents ont pu regagner la métropole parce que le colonel ou le capitaine, je ne sais plus, a été extrêmement aidant. C'est lui qui les a accompagnés de A à Z. De A à Z. Mais beaucoup n'ont pas eu cette chance. Mon grand-père maternel était lui-même harki, mais il avait fait le choix de rester en Algérie dans des conditions épouvantables, hein, parce que, vous savez, tout comme moi, il y a eu beaucoup de violence à l'égard de la population harki, aussi bien par les autorités françaises, mais aussi par les Algériens. Et donc, lui, il a fait ce choix d'y rester, et il est resté en Algérie.
Témoignage d'Aïssa Mekki sur la situation des harkis au moment où intervient l'indépendance. Il y a dans l'exposition, je me permets de le signaler, à l'intérieur, une partie particulière qui est consacrée à la présentation de documents originaux qui viennent essentiellement des ADL.
Des archives départementales.
Alors j'ai relevé dans cette exposition la présence d'un échange entre le préfet de la Loire à l'époque, qui s'appelle Maurice Grimaud, célèbre préfet, puisque c'est ça le préfet de Paris en 1968, et Pierre Dumont, qui était presque son prédécesseur, enfin qui a été longtemps préfet entre 1952 et 1956, un long passage quand même pour un préfet. Et Pierre Dumont, il se trouve que Pierre Dumont est inspecteur régional à Alger, et il envoie une lettre à Maurice Grimaud pour lui demander s'il peut accueillir une cinquantaine de Mokazni. Donc c'est des Algériens qui participaient au SAS, c'est ça?
C'est ça, c'est pour dire les choses très simplement, ce sont les harkis qui encadrent les SAS.
Voilà. Et donc il lui demande de trouver du logement, du travail, et ce qui est intéressant, c'est la réponse de Maurice Grimaud, parce qu'elle montre à la fois tous les non-dits de l'administration, le fait que l'administration française est très mal à l'aise par rapport à cette question des harkis. Et finalement, il lui dit, je pourrais peut-être en accepter 8. 8 dans la Loire. Hein. Il dit, je ne te parle pas dans ces conditions des possibilités d'emploi, sauf pour te dire que présentement, les industriels ne recherchent que des ouvriers qualifiés professionnellement, ce qui limite bien les choses. Il parle beaucoup de la sécurité. Hein. Il peut y avoir pour toi quelques cas de véritable urgence. Au-delà, nous retombons dans le problème de la sécurité, c'est-à-dire que mes services, ce passage, aussi bien renseignements généraux qu'affaires musulmanes, me mettent en garde contre l'arrivée de ces éléments qui seraient très rapidement repérés par l'organisation politique du FLN et l'on aurait certainement de sérieux incidents pouvant aller jusqu'aux assassinats. C'est le climat du printemps et de l'été 1962.
Tout à fait.
Alors, on reprend les témoignages. On a celui, évidemment, des rapatriés avec le frère et la sœur qu'on a déjà entendus, qui sont Alain et Marie-Jeanne Flour.
Papa et maman sont restés une année de plus. C'est que papa travaillait dans une usine à gaz.
Oui.
Et ça ne se largue pas comme ça. Donc, je suppose qu'il y a eu une formation de personnel algérien pour prendre la suite à partir de juillet 63.
Oui, puis il n'aurait peut-être pas eu sa place tout de suite aussi, parce qu'en 62, tout le monde partait en même temps.
Il a reçu son affectation en septembre 62.
Ici ?
Mais ils sont restés jusqu'en juillet 63, juin 63 en Algérie.
Et puis après, on part de Constantine, et puis on a pris le bateau à Oran, donc on traverse toute l'Algérie avec la voiture de mon père. Il avait de la chance d'en avoir une déjà, voiture.
Une 404.
Une 404. Donc là, c'est pareil, on traverse tout un tas de régions qui avaient été les théâtres des combats, hein, dans les montagnes, la forêt d'Yakouren, enfin tout un tas d'endroits où il y avait eu des combats. Donc là, nous, on les traverse. On pense même pas qu'on peut se faire arrêter ou trucider, mais c'est après, en y réfléchissant, je me suis dit, ça aurait pu arriver aussi, hein, c'était pas tout à fait fini, peut-être. Donc on passe chez nos grands-parents pour leur dire au revoir. Parce qu'ils nous ont rejoints, mais un peu plus tard, en France.
Et papa faisait des films en caméra 8 mm.
Oui, on a nos films, oui, c'est vrai.
Et un film vraiment, où, quand nous le voyons, nous pleurons, c'est le départ sur le bateau, direction Port-Vendre, et mes grands-parents qui restent en Algérie une année de plus, et les mouchoirs qui s'agitent.
Je ne peux pas le regarder sans pleurer, donc je ne le regarde plus, parce que ça ne me sert pas à grand-chose. Donc notre grand-mère qui agite son foulard... Et nous, on est en hauteur, évidemment, le bateau, c'était le ville de Marseille.
Donc nous partions, et les grands-parents, tant maternels que paternels...
Ils sont restés quelques mois de plus.
Ils sont restés jusqu'en 64.
Jusqu'en 64, oui.
Parce qu'eux, ils étaient retraités, ou grand-père travaillait dans un cinéma, et ils ne savaient pas ce qu'ils allaient faire en France.
Voilà, donc le témoignage d'Alain et de Marie-Jeanne Flour, qui sont arrivés en France et à Saint-Étienne en 1963.
C'est ce qu'on appelle les rapatriés.
C'est ça, c'est les rapatriés. Il se trouve que, eh bien, pour leur famille, le rapatriement, il prend la forme d'une mutation de fonctionnaire. Ils nous ont confié les documents relatifs à la carrière professionnelle de leurs parents, et notamment de leur père. Donc leur père travaillait chez EGA, qui était la compagnie de gaz algérienne. Eh bien, tout simplement, il reçoit une lettre de mutation qui lui dit, à partir du mois de juillet 63, vous êtes attendu à Saint-Étienne, à l'usine de gaz qui était située près de l'Étivalière.
Et le témoignage qu'on peut voir dans le chalet est assez intéressant, parce qu'on voit cette femme qui évoque son arrivée dans la région stéphanoise et son ébahissement par rapport au paysage, qui est totalement différent, évidemment, de celui qu'elle connaissait en Algérie. Caroline, pour terminer, il faudrait que tu nous fasses un petit bilan de cette exposition et puis des perspectives.
Alors, un petit bilan de cette exposition. On n'a pas de chiffres, malheureusement, j'ai pas de chiffres à te donner. Ce que je peux te dire, c'est que cette exposition, elle a été inscrite dans le cadre de la Biennale Trace, ce qui fait qu'on a, en fait, on a doublé le nombre de visites guidées par rapport à ce qu'on fait d'habitude. On fait habituellement une visite guidée par mois. Là, on en a fait deux sur le temps de la Biennale, entre le mois d'octobre et le mois de décembre. À chaque fois, ces visites ont trouvé leur public. Ce qui est déjà bien. Quelque chose d'assez réjouissant pour nous. Nous avons pas mal de scolaires inscrits en visite. On a une dizaine de classes de 3e. On a accueilli une classe de lycée. Voilà pour ce qui est de la fréquentation, on va dire, de l'exposition.
Il y a eu des conférences. Et il va y en avoir encore.
Il y a eu des conférences. Il y en a eu mardi au Mémorial et à la Cinémathèque. Et il va y avoir encore des conférences, l'une sur Rachid Mekloufi le mercredi 29 mars à 19h à la brasserie Geoffroy Guichard. Il va y avoir aussi l'intervention de Benjamin Stora le 27 avril à 19h, ce sera au Méliès Jean Jaurès. On va avoir aussi un spectacle créé à partir de, des documents issus de la collecte, un spectacle qui s'appelle « Je vous écris d'Algérie », qui est un spectacle en partenariat avec le conservatoire Massenet. Voilà, donc on a toute une série, comment on va dire, de manifestations oui, qui sont organisées,
valorisation, accompagnement,
et qui accompagnent l'exposition.
Voilà. Et donc l'exposition sera visible jusqu'au 16 juin 2023.
Oui, avec une journée de clôture le 17, dont le programme n'est pas encore fixé.
D'accord. Voilà. Alors, on va terminer par l'agenda. Je veux juste, avant de donner la parole à Lionel, s'il a des choses à ajouter, rappeler ou apprendre peut-être aux auditeurs que le 24 février à 14h30 à la Cinémathèque, le Grémos présentera le film consacré à Jean Métron et fera une animation autour de la recherche biographique des militants ouvriers. Est-ce qu'on a d'autres... Non. Eh bien, il me reste à remercier Caroline du fond du cœur. Et c'était sa première, il faut l'applaudir. Et puis Lionel, bien sûr, qui lui est un vieux routier de la radio. Et remercier tous les auditeurs de leur attention et vous dire au mois prochain, février, la date précise, je ne l'ai pas encore.
Le troisième jeudi du mois.
Le troisième jeudi du mois.
Et merci. On renvoie sur votre site, surtout, grémos.fr, voilà. Pour avoir toutes les infos précisément.
Et nous avons une page Facebook maintenant.
Absolument. Merci Jean-Michel, merci Caroline.
Merci
Lionel. On termine
merci
avec cette
Jean-Michel.
Dernière proposition musicale, Caroline, si tu veux le présenter tout de même, qui nous servira de générique de fin.
Ouais, c'est un chant révolutionnaire du FLN qui devient l'hymne algérien.
D'accord.
Ouais. Au mois prochain, au revoir.
Au revoir.
Au revoir.
فاشهدوا